Qu'est-ce que ça veut dire tendre l'autre joue? Parce que c'est vrai que pour chacun d'entre nous, on peut avoir un certain nombre d'interrogations, mais est-ce qu'au fond le Seigneur est bien réaliste? Est-ce qu'il ne nous demande pas d'être un petit peu maso quelque part? Est-ce que tendre l'autre joue, c'est vrai que pour chacun d'entre nous, c'est aussi une interrogation. Je vous propose, pour ceux qui ont encore leur Bible, de vous transposer, de vous mettre à Matthieu 5, 39. Ceux qui ont un peu leur Bible, Matthieu 5, 39. Et peut-être appeler ceux qui sont dehors, qui puissent rentrer aussi. La jeune Florence Nisery, ainsi que... Ah ben, impossible, d'accord. Alors, chacun, ceux qui ont des Bibles, vous avez Matthieu 5, 39, c'est bon? Bon. On va dire vous l'avez. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la joue gauche. L'autre joue. Présente-lui aussi l'autre joue. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette parole? Premièrement, il y a une mauvaise compréhension de la parole, qui est un sens très littéral, c'est-à-dire que si on vous tape sur la joue droite, vous faites comme ça, et vous dites, tapez-moi là. C'est pas ça. C'est pas la bonne interprétation. Hein. On est en Matthieu 5, 39. Donc, et de fait, quand vous vous rappelez Jésus en sa passion, Jésus n'a pas appliqué ce qu'il a dit, puisqu'il a été frappé par le grand prêtre en Matthieu 26, 67. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Il n'a pas fait comme ça. Ou comme ça. Vas-y, fais-moi le mal. Donc c'est intéressant de nous-mêmes de dire que le Seigneur lui-même ne donne pas une consigne technique, comme bien souvent, hein, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le, si ta main t'entraîne au péché, arrache-la. Bon, il faut comprendre le sens, il ne s'agit pas de s'amputer, ça c'est évident. Donc on peut commencer d'abord par souligner et de voir que si quelqu'un te frappe sur la joue droite et qu'il est en face de toi, il faut toujours les Juifs voient la question concrète. Quelqu'un est en face de toi pour frapper sur la joue droite, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Je suis en face de moi. Si je fais comme ça, non mais, c'est la joue gauche. Donc c'est un revers. C'est comme au tennis, c'est un revers de la main. Mais c'est un revers, bon, donc c'est un revers, et pour taper la joue droite, ce qui n'est pas si naturel que ça. Non mais, c'est vrai, parce qu'on veut mettre une claque à quelqu'un, on prend comme ça, et paf, allez, prends ça, et c'est la joue gauche. Pourquoi tu frappes la joue droite? Et quand Jésus... Non, mais Jésus n'était pas gaucher, sauf à... Bon, il n'y a rien n'est dit là-dessus. Mais la plupart des personnes sont droitières, bon, il peut être gaucher, on sait. Mais c'est intéressant qu'au fond, il y a un petit détail qui mérite notre attention, au fond. Et souvent, et c'est là où on a perdu la culture juive et la culture hébraïque du très concret. Au fond, la personne qui a été frappée sur la joue droite, eh bien, c'est un acte plus important, plus condamnable aux yeux de la loi de Moïse que frapper comme ça un coup droit sur la joue gauche. Hein, puisque, voyons la signification de tout cela, il faut comprendre que frapper quelqu'un du revers de la main constituait une très grande insulte. C'est tout comme si on l'infligeait une avanie. Hein, la loi juive prescrit une peine de 200 suzim pour la personne qui frappe son prochain avec la paume de la main, donc la joue gauche, la plupart sont droitiers. Cette même loi dit aussi que si vous agressez quelqu'un en le frappant du revers de la main, votre amant est de 400 suzim. Donc, quelque part, il y a une offrande, une offense qui est bien plus grande si on frappe de la joue droite, parce que c'est pas un geste qui nous est naturel. Ça demande, d'une manière ou d'une autre, plus de... Oui, de détermination, quoi. C'est plus, au fond, un côté un peu plus vicieux, quoi. Un peu plus. Voilà, tu frappes sur la joue droite, c'est pas seulement la passion qui va motiver, frapper, donner une gifle sur la joue droite. C'est déjà un calcul. C'est déjà un calcul, c'est une personne qui a déjà calculé, donc il y a une certaine malice en elle-même. Hein? Et ces chiffres montrent que la gravité de l'offense dépendait de la façon dont on frappait. La loi juive, et je m'inspire d'un. J'ai regardé un petit peu sur Internet, entretien au pluriel chrétien.com, je pense que c'est un site protestant, mais qui fait une très très bonne analyse de la question, et je veux dire, j'ai beaucoup appris en le lisant. Et donc, gifler quelqu'un en étant. La juge considérait que l'action de gifler était une agression qui mérite une sanction monétaire. On devait payer pour une amende, pour humiliation qu'on a infligée à quelqu'un. Si vous avez frappé avec le revers de votre main, votre amende sera deux fois plus grande, car on considérait cette insulte comme étant plus grave que les autres. Face à ça, donc c'est assez intéressant, face à ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la justice punitive. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est un principe universel de justice. Hein, c'est dans la loi de Moïse, dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Dans toute société, on respecte au fond ses membres et la justice doit être présente. Au fond, on rend à l'autre ce qu'il nous a donné. Ce qui est déjà un progrès par rapport à la barbarie. La barbarie, c'est la démesure. C'est le manque de loi. C'est le manque de liberté. La barbarie, c'est les passions à l'état pur. Et c'est en nous, ne l'oublions pas, la barbarie. Nous sommes la civilisation qui s'oppose à la barbarie, c'est un état de droit. Et un état de droit, œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà un progrès par rapport à la démesure. Et donc, la personne est amenée, au fond, à passer de la justice qui repose sur le principe d'équité et exige un juste châtiment. Et la punition doit refléter la gravité du crime. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Donc c'est intéressant de se dire que Jésus nous emmène plus loin. Il emmène plus loin que ça, qui est déjà une justice, qui est déjà un progrès. Juste un petit point. Combien de fois, quand nous avons été agressés, nous sommes dans la démesure. Nous avons été agressés dans notre honneur, nous avons été agressés dans notre propre dignité personnelle, et on voudrait que l'autre meure. On le fait pas, mais en tout cas, s'il pouvait lui arriver un mal grave, on pourrait s'en réjouir. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant de pouvoir dire déjà, est-ce que dans notre cœur, le conflit, les attitudes spirituelles face au conflit, c'est le thème d'aujourd'hui, comment est-ce que le conflit réveille en moi un océan de violence? Un océan de violence que je n'ai pas forcément bien accueilli, que je n'ai pas. Mais en même temps qu'il faut traverser pour pouvoir être disciple de Jésus. Faut pas en avoir peur de cet océan de violence qui nous habite. En nous, il y a beaucoup de violence. Alors, comme on est des gens bien élevés, bien, forcément, on se restreint. Mais, et donc, on essaie de se tempérer. Mais en même temps, je pense que c'est bien de dire, en moi, je vois que je suis capable du pire. Je suis capable du pire parce que précisément, en étant humilié, en étant source, en victime d'injustice, eh bien, je vois que ça réveille dans mon cœur. Et il faut passer par cette colère. Il faut passer par cette violence. Il faut la nommer. J'ai beaucoup de violence contre toi ou contre telle personne. Donc, l'équité demande justement que ce soit Bah, blessure pour blessure, plaie pour pied, plaie, pied pour pied, main pour main, dent pour dent, c'est l'équité. À fond, le principe de la justice qui constitue la base de la loi est appliqué à chaque fois qu'on prononce la sentence dans les cas où il y a verdict de culpabilité. En matière de justice, on ne parle pas de pardon. Ou bien vous êtes coupable, ou bien vous êtes acquitté. Il n'y a pas de place pour demander pardon au juge en lui promettant de ne pas recommencer. Et les dames qui sont venues hier, Madame Fertelkschul et puis Madame Jodel, je trouve ont bien montré ça. Le jugement, il y a un perdant, il y a un gagnant. La médiation, qui au fond part de principes très chrétiens, ben, c'est gagnant-gagnant. Et je pense que c'est quelque part, à travers cette parole du Christ, qui nous invite à tendre l'autre joue, on en découvre un petit peu les bases, et puis en même temps, voilà, si vous êtes coupable, eh bien vous êtes condamné, si vous n'êtes pas coupable, vous êtes acquitté. Mais qu'est-ce que ça veut dire présenter l'autre joue à l'agresseur? Au fond, c'est là où il faut un peu aller plus loin dans la réflexion de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire présenter l'autre joue? Est-ce que c'est simplement demander à l'autre qu'il nous fasse mal alors qu'il nous a blessés pour une première fois? On a vu que c'était non. Le Christ lui-même, lors du procès, a été frappé par le grand prêtre ou le serviteur du grand prêtre et n'a pas tendu l'autre joue, a demandé pourquoi me frappes-tu? Il faut rentrer dans une autre logique. Une autre logique que l'on trouve en Isaïe 55, 8 à 9. Hein, chapitre 55, versets 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur. Autant le ciel et les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies, mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au fond, il faut rentrer dans une autre logique quand on est agressé, ou quand on est aussi agresseur. N'oublions pas que nous pouvons être aussi agresseurs. Il faut rentrer dans une autre logique qui nous invite à aller au-delà de la vengeance. Parce que la difficulté, c'est que on met la justice au service de la vengeance. Alors, c'est un état de droit, du coup. Mais quelque part, on veut que l'autre paye. Il faut qu'il paye. Et c'est justice, œil pour œil. Et le Seigneur nous invite plus loin. À aller plus loin, disant au fond, ne vous conformez pas au monde présent, réformez, transformez votre manière de penser. Et tendre l'autre joue, c'est transformer notre manière de penser. Aller dans une autre pensée, aller dans une autre mentalité. Au fond, c'est une forme de conversion, une autre orientation. Et le Seigneur nous montre en quoi nous avons besoin de changer en nous donnant ce précepte. Mais il faut regarder, si quelqu'un te frappe, donne-lui l'autre joue. Mais c'est aussi en lien avec un autre passage de l'Évangile. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui ton manteau. Si un soldat te force à transporter ses bagages pour une distance d'un mille, ce qui est une pratique reconnu par la loi de Moïse, donne-lui un autre mille. Fais un autre mille supplémentaire avec lui. Si un mendiant te demande quelque chose, donne-lui de ce dont il a besoin. Au fond, c'est aller plus loin dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans cette parole-là. Tendre l'autre joue, c'est montrer un autre visage face à l'agression. On montre une partie du visage parce qu'on est frappé sur la joue droite, tend l'autre joue, c'est-à-dire montre une autre partie de ton visage, montre une autre partie de ta manière d'être au monde, montre une autre partie, une autre façon de gérer les conflits. C'est pas dans une attitude, on le comprend bien, masochiste. Bien au contraire. Et donc le Seigneur nous demande à travers cette parole, Il vous a été dit, la loi de Moïse, qui était un progrès, mais moi je vous dis, qui va bien au-delà, le christianisme joue dans une autre cour, complètement une autre cour. On est dans la gratuité, on est dans le pardon. Il accomplit la loi de Moïse, c'est ce que dit Jésus, je ne suis pas venu abolir mais accomplir, et le christianisme d'une certaine manière a à voir avec le cœur. Comment, quel visage tu vas avoir face à l'offense que tu vas recevoir? Quelle manière de te positionner? Quelle attitude intérieure tu vas avoir? Au fond, la seule chose que tu peux changer lors d'un conflit, ou la première chose plus exactement que tu peux changer, c'est toi-même. C'est toi-même, parce que justement, cette manière d'être en face de l'autre et de montrer une autre va le désarmer. Ça va quelque part. Qui se positionne, positionne les autres. Ça, écrivez ça en lettres d'or au-dessous de vos studios de 9 mètres carrés. Donc, qui se positionne, positionne l'autre. Alors, je trouve ça vraiment très, très, très beau parce que justement, ça demande au fond, au mendiant qui vous sollicite, vous lui donnez ce qui lui manque. Un chrétien qui a vraiment été transformé, renouvelé dans sa manière de penser, son intelligence, pense maintenant que cette manière, de cette manière, il pense d'abord à donner plutôt qu'à s'approprier. Il donne même ce qu'on ne lui a pas demandé, parfois, et il donne au-delà de ses moyens. Au fond, c'est ce que dit l'apôtre saint Paul, soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est pas simple, parce que trop bon, trop, c'est trois petits points. Hein? Donc, et ça c'est la loi du monde. Mais nous, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Chaque fois que l'on rentre dans une autre logique, la logique de l'évangile, on rentre dans la logique du Seigneur. On fait confiance à la parole du Seigneur. Moi je vous dis, c'est une parole qui nous est dite. C'est une attitude qui nous est proposée. Faites confiance à cette attitude, même si tout vous dit le contraire. Évidemment, Jésus se situait face à des millénaires de tradition juive. Il vous a été dit. Mais demandons au Seigneur cette confiance et au fond à cette force de l'amour et cette manière d'être profondément disposé à accueillir sa grâce pour changer de visage, montrer un autre visage, montrer une autre joue, ça veut dire montrer une autre manière d'être au monde, montrer quelque chose qui est différent. Ne répondez pas au mal par le mal. Et ensuite Jésus qui dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est intéressant ça. Ne pas résister aux méchants. Hier, Madame Donatien nous a dit, voilà, on peut être dans le mode un peu compétitif, voilà, c'est un peu agressif. Tu m'agresses, je t'agresse, et puis c'est une forme d'agressivité mutuelle. Alors, on se dit, est-ce que Jésus, au fond, fait fi de la justice? En disant, ne pas résister aux méchants, parce que, on l'a vu hier, la médiation peut s'appliquer tant que l'ordre public n'est pas troublé. Mais si l'ordre public est troublé, eh bien forcément, là, c'est le juge qui intervient. Parce qu'il est en défense du bien commun, et là, il faut intervenir. Dans les délits et crimes graves, forcément, il faut intervenir. Sinon, c'est l'équilibre de la société qui est mis en difficulté, en fragilité. Mais en fond, le Seigneur ne rend pas caduc ce principe de justice. Il nous dit simplement d'aller au cœur même de la loi de Moïse. Car voyez-vous, Le côté charnel de l'homme a perverti l'application du principe de justice. On a abusé de cette prescription de l'Ancien Testament au point qu'elle servait à justifier la vengeance personnelle. Évidemment, on ne disait pas qu'on cherchait la vengeance. L'esprit de vengeance se déguisait sous le masque d'un semblant de justice. Tu me frappes, je te frappe. Tu me voles, alors je te vole. Le principe de justice a subi une telle perversité qu'on l'utilisait pour faire contre le contraire de ce qu'elle énonce. Ce principe, pensait-on, justifiait que l'on rende le mal pour les mal. Alors Jésus va à l'encontre de cette façon de penser. Ne faites pas cela. Résistez aux méchants. Triomphez du mal par le bien. Attention, et ça je trouve, c'est d'instrumentaliser la justice pour assouvir nos passions et notre désir de vengeance. Et on l'a vu dans le témoignage qu'a donné Madame Jodel, hier aussi, de cet homme qui voyait ce garçon un peu comme son fils. Il n'avait pas d'enfant lui-même, et à qui il avait tout transmis, etc. Dans l'heure, il fallait absolument faire une injonction, il fallait absolument la signer en justice. Dans l'heure. En fait, il voulait se venger. Il voulait se venger. Ce que je comprends, Archie comprend. Non, parce que moi, je suis pareil. Je veux dire, un type me fait ça. Je veux dire, bon, si je peux le passer à la moulinette, j'en serais ravi. Donc, mais ça, c'est en nous. Ça, c'est le vieil homme. C'est en vous, c'est en moi. Il y a tout un océan de violence, mais moi, je vous dis, nous dit Jésus. Et la parole du Christ est performative. Qu'est-ce que ça veut dire, performative ? C'est-à-dire, elle accomplit ce qu'elle dit, parce qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est différent d'une parole humaine. Je vous dis, soyez à l'heure à 11h30, par exemple. C'est pas performatif, et tant mieux quelque part. Bon, mais voilà, c'est une parole humaine. Mais quand le Christ, moi je vous dis, faites confiance à la parole, elle accomplit. Et Dieu dit, et cela est. Il est parole de Dieu. Parole faite chair, et Dieu dit, et cela est. C'est cette même parole que le Père a prononcée au commencement du monde, dans la Genèse. Eh bien oui, nous croyons que le Christ, si nous croyons au Christ, nous croyons en sa parole. Et ça veut dire, et c'est pour ça qu'il y a des paroles qui ne sont pas faciles à croire. Entre autres, cette parole-là. C'est pas facile à croire. Parce que quelque part, tout nous montre l'inverse. Alors, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Jésus ? Est-ce qu'on fait confiance à sa parole ? Est-ce qu'on fait confiance que quand on vous demandera votre chemise, eh bien, donnez votre manteau ? Quand on vous demandera de faire 1 000, faites 2 000 avec votre adversaire. Rentrez dans une logique de gratuité. De désintéressement. Tout nous montre le contraire. Comme au cœur même de la passion, au seuil de la passion, au seuil de la résurrection,